Quel mot vous vient si je vous dis le mot règle ?
Le mot qui me vient, c'est douleur.
Et moi, je dirais sang.
Et je dirais contraction.
Et je dirais la vie. Deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est soulagement ou déception.
J'ai deux mots, j'ai douleur et soulagement.
Moi j'ai envie de mettre le silence quoi. Enfin souvent ta tête et puis le mot qu'ose pas être dit.
Rien quoi.
Oui, mais justement, ou bien genre t'es un peu, t'as mal au ventre, tu te sens pas bien et puis genre t'as un pote qui te dit ah ta tête.
De ce que j'entends, il y en a pour qui les règles, c'est vraiment juste l'horreur et il faut que ça passe au plus vite et que ça se voit un minimum, que ça se sente un minimum.
C'est une étape menstruelle, non ?
Oui. Il y a la notice pour l'utiliser.
Coupe, cup, tipper, kezako.
Elle est transparente à la base ?
Oui. C'est marrant. Moi, j'en ai deux. J'en ai une, elle est devenue comme ça, et l'autre, non.
Ah oui.
Elle est encore comme neuve.
Elle avait la base transparente.
Et comment vous mettez ça, en fait ?
En fait, ça se plie. Donc, enfin, sauf si tu veux le montrer.
Tu plies ça comme ça. Ouais. Et puis tu l'introduis dans ton vagin. Et alors, ça va se réouvrir tout seul. Et ça fait ventouse, donc ça...
Et c'est fermé en dessous.
Et c'est fermé en dessous.
Ouais.
D'accord.
Mais qu'est-ce que la coupe menstruelle ? Ou autrement nommé, cup, keeper, moon cup, coupe lunaire ou encore coupelle menstruelle. C'est un récipient qui recueille le sang des règles. Il est souple, fabriqué en silicone ou en latex. Il a une forme d'entonnoir mais dont le bout est clos. On l'appelle donc en français coupe, en anglais cup.
Moi, dès que j'ai entendu parler de ce que c'était, j'étais décidée. Je veux dire, je crois qu'on m'en aurait parlé en 1989. Je serais passée à la coupe.
L'histoire de la coupe est plus ancienne que ce que l'on peut s'imaginer. Il est difficile d'établir une chronologie et notre seule source d'information fut fournie par Harry Finlay et son Museum of Menstruations and Women's Health, mum.org. Il fait remonter la première coupe à l'année 1867 à Chicago. Cependant, elle n'a pas été commercialisée. Elle n'avait pas encore la forme sous laquelle on la connaît maintenant. Vraisemblablement, une des premières coupes à être vendue fut donc la tassette, à l'initiative d'une comédienne américaine, Leona Chalmers, dans la fin des années 30. Il y eut d'autres coupes inventées aux États-Unis qui furent donc pionniers en la matière.
Une seule solution pour vos règles ?
La coupe menstruelle !
Une solution peu coûteuse qui dure au moins 10 ans et qui se fait oublier ?
La coupe menstruelle !
Rien qui dépasse en toute sécurité et discrétion ?
La coupe menstruelle !
Et fini les déchets !
Le succès des coupes n'a pas été immédiat, selon le site EasyCup. Il semblerait qu'aucune entreprise n'ait survécu à cause du peu de profits réalisés. Mais cela pourrait aussi provenir de l'intolérance au caoutchouc, ou de son manque de souplesse, ou tout simplement parce que c'était mal vu à cette époque de mettre ses doigts à l'intérieur. L'invention concomitante du tampon en 1936 pourrait être aussi une des causes de l'échec de ces premières coupes. Pour voir le retour de la coupe dans le monde du commerce, il a donc fallu attendre la keeper en 1987. Quoiqu'elle soit toujours constituée de caoutchouc de gomme naturelle, c'est-à-dire de latex. C'est la moon cup, cette fois en silicone médical, plus souple et moins allergisante, née au printemps 2002, qui donne enfin de l'ampleur à la vente des coupes menstruelles. Depuis 2010, c'est l'explosion. Des nouvelles coupes naissent sur tous les continents, avec des formes et des couleurs variées, chacune spécifique en forme, taille, souplesse et contenance.
Je pense que
les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est la coupe menstruelle. Donc une des questions c'est oui, mais ça ressemble à quoi, enfin qu'est-ce que c'est comme truc, et souvent quand ils voient les vidéos, parce qu'il y a des petites vidéos sur les sites de vendeurs de coupes menstruelles, et ils disent ah c'est ça, enfin genre ça va, c'est pas horrible, ça n'a pas l'air affreux, je devrais peut-être m'en sortir si j'en achète une, voilà.
La coupe se replie très facilement afin de pouvoir la rentrer dans le vagin où elle se déploie et se bloque par effet ventouse. Pour la sortir, en général, on pince la base pour faire entrer de l'air et annuler l'effet ventouse. Puis on la sort et on la vide aussi souvent que nécessaire selon son flux et la taille de la coupe. Mais on dit qu'il faut la vider toutes les 8 heures en moyenne.
Les toutes premières fois, j'ai tiré beaucoup trop fort pour la retirer et j'ai immaculé les murs de sang. Et c'était à mon travail. Donc je suis restée pendant un quart d'heure en train de nettoyer les murs des WC.
C'était en vacances en été, quoi. Et on était sur la plage et c'était vraiment un coin perdu où il y avait vraiment pas moyen de se cacher pour faire pipi, justement, et vider ma coupe au passage. Et donc, j'ai rien trouvé de mieux que de me dire, je vais aller me baigner, puis je vais la vider, puis comme ça, je la nettoierai, et puis je la remettrai. Et donc, j'ai nettoyé ma coupe dans la mer, et je l'ai remise, et là, c'était vraiment horrible, quoi, parce qu'en fait, l'eau salée, c'est vraiment très, très douloureux, quoi. Ne jamais nettoyer sa coupe à l'eau de mer, quoi, ça, c'est vraiment... C'est fatal.
Bon, quand même au départ, cette coupe, ce n'est pas facile. Mais franchement, les filles, ça vaut la peine. Et le coup de main se prend.
Au début, pour la retirer, pas toujours évident. Ou pour la mettre bien comme il faut.
C'est toute une technique qu'il faut, mais il faut pratiquer. Et après, on s'en sort.
Souvent, on vient avec l'argument du « oui, mais est-ce que c'est pas compliqué à mettre ?» Donc là, tu leur dis... Les doigts dans le nez, tu le fais, au bout d'un mois, tu le fais d'une seule main et t'en fous plus partout. C'est comme je disais, ça demande pas plus d'effort qu'un tampon sans applicateur, quoi.
Alors, je pense qu'il y a certaines filles qui sont un peu dégoûtées à l'idée qu'il faut. Il faut peut-être rentrer les doigts un peu profondément, les doigts dans le vagin alors qu'il est tout ensanglanté. Mais bon, il ne faut pas avoir peur de son corps comme ça. Hein. C'est que du sang. Hein. On se lave les mains après. Ce n'est pas sale.
Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens que ça dégoûte un peu. Et puis, on n'aime pas trop parler des menstruations. C'est vraiment un sujet un peu qui reste quand même tabou, quoi.
Souvent, il y a des filles à qui leur maman n'a jamais parlé de ça parce que c'est tabou, parce qu'on ne sait pas comment utiliser ces mots, c'est un peu secret et tout.
Les mères, tu vas arrêter de se voiler la face aussi. On sait bien que toutes les femmes en âge de procréer, à savoir 70% des femmes, ont leurs règles et saignent une fois par mois. Donc pourquoi on n'en parlerait pas? Ça n'a rien d'intime.
13 fois par an et 520 fois dans sa vie, une femme a besoin d'une serviette ou d'un tampon hygiénique. À l'échelle mondiale, cela représente une consommation de 1447 serviettes hygiéniques chaque seconde, soit 45 milliards par an. En moyenne, une femme utiliserait au cours de sa vie 10 000 à 15 000 produits menstruels, serviettes, tampons, applicateurs, emballages individuels.
Je me suis imaginé des tonnes et des tonnes de montagnes avec des serviettes hygiéniques et des tampons. Et ça, j'ai eu une vision d'horreur. Je me suis dit, mais on fait déjà... Il y a tellement de déchets dans ce monde, mais si au moins on pouvait faire ça, cette alternative, c'est tellement simple.
La France comptait en 2005 16 millions de femmes âgées de 13 à 50 ans, consommatrices potentielles, qui utilisaient 290 protections par an, selon Groupe Hygiène, l'organisme professionnel français des produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage. Il faudrait 500 ans à ces produits hygiéniques pour se dégrader, c'est-à-dire autant qu'une bouteille en plastique. Greenpeace donne à entendre que l'industrie des protections hygiéniques serait l'une des plus polluantes au monde. Selon la marque Natracker, chaque année, rien qu'en Grande-Bretagne, nous aurions besoin de creuser un trou de 230 mètres de largeur sur 230 mètres de profondeur pour enterrer les serviettes hygiéniques et tampons usagés. En moyenne, cela coûte 3000 euros à une femme sur l'entièreté de sa vie de femme réglée et représente 1,5 tonne de déchets, rien que pour elle.
C'est vrai que le tampon, c'était pas un truc... À cette époque-là, j'étais un peu en révolte au niveau de nos modes de vie plutôt consuméristes. Et donc, c'était une solution qui m'a paru excellente. Donc, j'ai foncé tout de suite.
J'ai l'impression que, ou bien il y a des personnes qui sont plus dans une démarche écologique et qui vont se dire « Non, moi, j'ai envie de faire attention à ma consommation et à ce que je jette. » et donc, je teste ça parce que j'en ai entendu parler, et voilà. Mais ce que j'ai découvert après, par exemple, c'est notamment tous les produits que contiennent les tampons.
Voici ce que Consoglobe.com et Le Monde Santé nous donnent comme information sur le contenu des tampons et des serviettes. Des cristaux de polyacrylate de sodium, de l'aluminium, des alcools, des additifs de parfum, des hydrocarbures, des pesticides, des résidus de dérivés halogénés liés au traitement des matières premières, des traces de dioxines, l'un des 12 polluants les plus dangereux au monde selon l'Organisation mondiale de la santé, suite au procédé de blanchiment au chlore de la cellulose. Entre 20 et 30 composants chimiques dont il est très difficile de faire l'inventaire, car les industries des protections hygiéniques gardent ces informations jalousement.
Et ça, je remarque que, par contre, ça touche beaucoup plus de femmes quand j'en parle, des gens à qui la coupe menstruelle, c'est juste pas question, quoi. Et puis, par contre, quand on commence à dire « oui, mais bon, tu sais que les tampons, avant, certains pouvaient provoquer des chocs toxiques, et donc ils ont remédié à ça en mettant des antibiotiques là-dedans. » Enfin, voilà. Et à ce moment-là, on sent quand même que je me mets ça dans le vagin, enfin, c'est pas rien, et...
Tous ces mêmes produits qui sont soit, parce que moi j'utilisais des tampons, donc qui sont vraiment à l'intérieur de ton corps, ça me semblait vraiment pas génial. Et aussi pour ce côté que le tampon est super absorbant, donc en fait absorbe le sang et tout ce qui va avec.
Et donc voilà, les tampons avaient tendance à me donner une démarche de John Wayne pendant une semaine après. Évidemment, je ne précise pas que tout rapport physique était totalement impossible dans la semaine qui suivait ma règle. Et donc voilà, depuis la coupe, je n'ai plus ces problèmes-là. Mes muqueuses remercient la coupe.
Actuellement, la vente des coupes reste cantonnée aux boutiques bio et aux sites internet et peine à atteindre des lieux qui toucheraient un public beaucoup plus large.
Enfin, c'est là qu'on se dit que les lobbies cosmétiques ont quand même un poids énorme, parce que je ne comprends pas que ce soit aussi peu connu.
Ça n'est pas diffusé comme à la télé ou dans les magazines, où évidemment il n'y a pas un magazine où il n'y a pas une pub. Donc ça ne se sait pas encore beaucoup. Moi, je ne l'apprends que par le bouche à oreille. Je n'ai jamais reçu une pub de ça nulle part.
Cependant, cela n'empêche en rien le secteur de se développer et d'attirer chaque jour de nouvelles utilisatrices prêtes à braver les multiples tabous qui entourent nos règles.
Je me souviens que la première fois que je l'ai mise, j'étais hyper fière. Enfin, j'avais vraiment la sensation d'avoir un petit calice entre les jambes, comme ça. Oui, un petit verre de cristal et... Ce sang était récolté dans un petit calice et il avait beaucoup plus de valeur que s'il avait été absorbé par un tampax ou...
Les serviettes hygiéniques, ça pue, quoi. Vraiment, les espèces de plastique dégueulasse au-dessus du tissu, enfin du papier. Et c'est une odeur nauséabonde, quoi. Et je crois que ça participe aussi au dégoût des règles, alors que normalement, enfin, ça sent pas, quoi. Alors que... Avec justement tous ces produits soi-disant super technologiques et dernier cri, c'est dégueulasse, ça pue et c'est mauvais, quoi. Donc,
La vision est tellement négative, on peut pas salir les mains parce qu'on risquerait d'être contaminé par son propre sang, c'est quasi ça qu'on nous dit, que du coup, peut-être, je sais pas très bien, que la coupe c'est un peu aussi accepter le fait d'être réglé et puis... Puis voilà, et puis de voir quelle est la quantité de sang qu'on perd, de voir ce qu'on perd. Enfin, c'est sûr qu'on en a beaucoup plus conscience. Mais...
Oui, je trouvais que ça donnait beaucoup de noblesse aux règles, quoi. Tout d'un coup, un sentiment d'être une marquise comme ça. Mais...
Utiliser la coupe, c'est se familiariser avec ce flux plutôt que d'en avoir honte, trop souvent au prix de notre bien-être. L'air de rien, ce petit objet de silicone peut nous aider à balayer les tabous, à connaître notre propre sexe, jusqu'à pouvoir en profiter joyeusement.
C'est principalement pour le confort que j'ai vraiment adopté. Après, il y a plein d'autres avantages. Le fait que ce soit écologique, le fait que ce soit... qu'il n'y a pas d'odeur, enfin... Et il n'y a rien qui dépasse.
J'ai l'impression, bon, je ne sais pas pour la majorité des femmes, mais qu'une fois qu'on l'a adopté, on n'en change pas. Mais...
Alors, le détail non négligeable, c'est qu'on peut se faire faire des minettes par son ou sa partenaire et on ne se rend compte de rien. Je trouve ça génial. Et il peut même, parfois, selon... Enfin, si on la porte vraiment très loin, il y a même moyen de mettre un doigt. C'est le petit détail un peu olé olé, mais qui a son importance, je trouve.
Je me souviens d'avoir passé une nuit avec un gars et puis à un moment je dis oui tu vas voir c'est un peu enfin j'utilise ce qu'on appelle une moon cup donc je crois qu'il a oui je me souviens bien il l'a touché puis ça l'a un peu révulsé comme ça il était ah qu'est-ce que c'est que ce truc tout dur.
Bon c'est toujours un peu le petit moment, c'est comme le préservatif quoi, c'est toujours le petit moment Ah ben maintenant, il va y avoir pénétration. Vite, vite, j'ai enlevé ma coupe. Donc c'est un peu... mais bon, si on le fait, si on est assez relax, dans un état d'esprit assez relaxé, et qu'on se sent bien avec son partenaire, ça vient assez naturellement, comme le préservatif. Et puis si c'est vraiment le moment où c'est le Niagara, et qu'on a beaucoup de règles, bah alors on va préparer un petit essuie pour éviter les dégâts, ou alors on s'en fout, c'est hyper passionné, et puis on met du sang partout, et ouais.
Mais en même temps, je trouve ça quand même beaucoup plus confortable, les relations sexuelles, quand on a ses règles, avec une coupe qu'avec un tampon. Parce que le tampon absorbe tout, donc merci pour la lubrification, c'est juste pas possible, quoi. Tandis que là, le fait que le seul l'anneau soit en contact avec les muqueuses, tout le reste, ça coule. C'est la joie, quoi. C'est le bonheur.
Coupe, cup, keeper, kézako. Un documentaire de Marie Bedbèze. Montage de Roxane Brunet. Mixage d'Irvic d'Olivier. Création musicale d'Antoine Blancard, Les Collégiens, avec les voix de Nora Tsibidas, Camille Raverdi et Laurent Bonnet, et l'aimable participation de Béatrice, Sarah, Céline, Charlotte, Gaëtane, Mademoiselle Catherine, Céline Audouard, et les filles de l'atelier CEFA, animées par Lara Lallemand, Hélène, Savina, Caroline, Virginie, Stéphanie, Gaëlle. Merci à Laura, co-créatrice du site Easy Cup, et à Laetitia, créatrice de la Lamazuna, pour leur précieuse expertise. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la CSR. Une production VOA ASBL.